Donc, séance du 15 décembre 2022, quatrième séance consacrée à la question du châtiment. Alors, je remets le petit papier en place. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, nous admettons en général qu'une société est d'autant plus juste qu'elle parvient à s'éloigner de l'esprit de vengeance et que son système pénal s'écarte des procédés expéditifs, donc de la vengeance. Parce que pour nous, il semble évident que la vengeance, c'est le synonyme de la barbarie. Ça s'oppose à la civilisation. Et la justice exige ainsi que nous renoncions à la vengeance et que nous renoncions à identifier le châtiment appliqué à un criminel à une forme de vengeance. Alors, c'est vrai que, on l'avait dit, le procès qui se déroule au tribunal doit permettre d'entendre les victimes, de reconnaître leurs préjudices afin de les apaiser, mais il ne s'agit pas pour autant d'ordonner le sens de la peine à leur souffrance. Considérer que la peine doit avant tout répondre à la souffrance des victimes, c'est prendre le risque de réactiver un processus de vengeance qui apparaît extrêmement dangereux, car il met en œuvre une violence destructrice qui peut mener au chaos. Ainsi, là, au fond, je ne fais que résumer la conception qui, ordinairement, est la nôtre. Ainsi, c'est à la loi qu'est due en premier lieu, la sanction. Et la sanction n'est due à la victime que parce qu'elle est d'abord due à la loi. Et dans cette logique, l'important, c'est d'examiner, d'établir la culpabilité du présumé criminel. Est-ce que cet homme a bien enfreint la loi? Est-ce qu'il est vraiment criminel? Et de quelle manière, donc par quel châtiment, convient-il de rétribuer son crime? Alors, on peut aussi considérer, c'est un autre point de vue qui s'impose aussi dans la société, on l'entend souvent, on peut aussi considérer qu'il n'est pas seulement juste de punir le criminel qui a enfreint la loi, parce qu'il a enfreint la loi, mais on peut aussi considérer que la peine est utile dans l'intérêt de la société elle-même. Les peines seraient ainsi des moyens, au fond, pour renforcer les lois, elles seraient des moyens pour contribuer à la conservation de la société. Et on considère de ce point de vue que les peines ont une valeur dissuasive. Bon, mais quelle que soit la justification qu'on donne ici du châtiment, il apparaît que ce qui dans le crime est punissable, ce n'est pas essentiellement la relation du criminel à sa victime, c'est d'abord et surtout la relation du criminel à la loi, ou aussi éventuellement à la société. Et comme on l'avait dit, la victime doit en quelque sorte passer à l'arrière-plan. Et encore une fois, je reviens là-dessus, puisque c'est de ça dont on va discuter. Il semble bien que si on place la souffrance de la victime au centre du débat judiciaire, on risque d'ouvrir la boîte de Pandore, on risque d'ouvrir la porte du tribunal à l'esprit de vengeance. Ainsi, nous pensons, que pour châtier, il faut renoncer à la vengeance, il faut éviter de faire de la victime la référence absolue. Alors, la lecture que nous avons faite, de l'Orestie, la grande tragédie d'Eschyle, semble à première vue aller dans ce sens, à première vue. Puisque, à première vue, le droit pénal y apparaît comme une conquête remarquable de la raison humaine, obtenue justement contre la vengeance. L'institution de l'aréopage permet, c'est certain, de mettre un terme au cycle des vengeances qui afflige la famille des Atrides et menace la cité d'Argos. L'établissement du droit pénal substitue désormais le discours à la violence, puisque c'est au terme d'un débat contradictoire lors du procès que doit être établie la culpabilité du criminel et que doit être prononcé son châtiment. Ceci est indiscutable. Il est absolument indiscutable qu'en mettant un terme au règlement des conflits par la violence, on accomplisse un grand pas. Toutefois, si le tribunal de l'aréopage met fin à la violence, au cycle infernal des vengeances, est-ce qu'il exclut pour autant la vengeance? C'est de cela dont nous avions parlé en fin de séance, souvenez-vous. C'est ce que nous sommes tentés de penser. Nous pensons, nous croyons que l'Orestie nous délivre ce message, qu'au fond, enfin, on va pouvoir mettre un terme à la vengeance. On va enfin l'exclure en instituant le tribunal de l'aréopage. Mais une lecture attentive de l'Orestie nous montre en réalité tout autre chose. Puisque, comme nous l'avons vu, en effet, ce tribunal permet de mettre fin au cycle infernal des vengeances, hein, où chaque vengeance fait verser le sang pour répondre au sang versé, hein, à chaque fois. C'est vrai, mais pour autant, le tribunal de l'aréopage ne rompt pas avec le principe de la vengeance. Et ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre. D'une part, je rappelle que l'aréopage n'est pas un tribunal placé sous l'autorité d'un État et chargé d'en appliquer la loi. C'est une assemblée de citoyens qui délibère, qui vote, pour se prononcer sur la culpabilité d'un homme et pour lui appliquer une peine. Donc le juge, ce sont les citoyens. Le juge, c'est l'assemblée des citoyens. Le juge n'est pas le fonctionnaire ici d'une autorité législative, comme c'est le cas pour nous. C'est un juge qui se tient en quelque sorte au milieu des plaideurs. D'un côté, vous avez la victime qui expose son préjudice, met en cause son agresseur. Et puis de l'autre côté, vous avez l'agresseur lui-même, le présumé coupable à qui on donne la parole. Donc, le tribunal se trouve entre les deux, en quelque sorte. Et rendre la justice, c'est d'abord entendre la plainte de la victime, puis la réponse de l'accusé, et c'est examiner si la victime est vraiment fondée à exiger réparation du préjudice qu'elle a subi. Vous voyez ? Et si c'est le cas, la peine appliquée au coupable, eh bien, visera justement à donner satisfaction à la victime. Donc, vous voyez que la lecture de l'Orestie n'établit pas, si on y réfléchit bien, elle n'établit pas une équivalence entre la vengeance et la violence, comme nous serions tentés de le penser. Le problème, on l'avait dit, et c'est pour ça que je reviens là-dessus, le problème n'est pas de refouler la vengeance pour faire triompher la justice. Le problème, c'est d'établir une juste vengeance. Une juste vengeance en évitant justement que la vengeance ne glisse vers la violence. Et au fond, dans son principe, la justice pénale établie avec l'aéropage ne rompt pas avec la vengeance. Elle veille seulement à ce que la vengeance ne débouche pas vers le cycle infernal de violence. Donc, c'est une chose qu'il faut rappeler. C'est pour ça que cette pièce, cette tragédie est intéressante, parce que, alors qu'apparemment, elle allait, semble-t-il, dans notre sens, on voit, au bout du compte, qu'elle n'accomplit pas la rupture que nous croyons avec la vengeance. Elle maintient le principe de la vengeance, elle en évite seulement les excès. Et pourquoi nous étions tentés de penser de cette façon? Parce que il nous paraît encore une fois évident, et c'est une évidence peut-être discutable, il nous paraît évident que la vengeance est incompatible avec l'existence d'une société. Il nous paraît évident que la vengeance détruit le lien social, et donc qu'il faut l'exclure, qu'il faut la refouler. Or, non seulement l'Orestie ne va pas dans ce sens, mais comme le montrent les travaux d'un certain nombre d'anthropologues, d'historiens, il y a des peuples pour qui la vengeance est une pratique collective, est une pratique publique, collectivement reconnue, qui permet justement à leur société de se réguler. C'est-à-dire que ces sociétés-là ne connaissent pas le droit pénal que nous avons, elles fonctionnent autrement, selon un autre type de droit, si vous voulez, et elles ne correspondent pas à ce que nous attendrions, finalement, puisque nous pensons que la vengeance est quelque chose de forcément néfaste. Et c'est ce que va montrer aussi le philosophe Aristote, 4e siècle avant notre ère, dans deux grands textes, la rhétorique et puis l'éthique à Nicomaque, précisément le livre 5 de l'éthique à Nicomaque. Nicomaque est le fils d'Aristote. Alors, qu'est-ce qu'il va montrer Aristote, puisqu'on va entrer dans sa lecture? Il va montrer que le désir de vengeance, ce qui s'appelle tout simplement la colère, n'est pas une passion purement irrationnelle, ce n'est pas une passion étrangère et rebelle à la vie sociale. La colère fait au contraire partie des passions qui peuvent être modérées, qui peuvent être régulées, qui peuvent être socialisées. Et donc, loin d'être totalement irrationnelle, déréglée, eh bien, la vengeance peut s'intégrer dans un ordre social. On ne doit pas la considérer comme un affect d'ordre purement privé. Elle implique le regard des autres. Elle fait appel à l'opinion collective, elle est inséparable d'un code social, elle s'articule donc à un certain nombre de questions, comme la question de l'honneur, la question de la réputation, la question de la reconnaissance. Donc, ce que va montrer Aristote, qui va d'ailleurs dans le sens des travaux des historiens, des anthropologues qui étudient les sociétés dont je vous parlais, eh bien, c'est que la vengeance, finalement, c'est l'un des modes de l'échange symbolique qui noue les relations entre les citoyens. Finalement, c'est une certaine manière d'être sociale que la vengeance. C'est pas quelque chose de sauvage, hein. Bien sûr qu'il y a une forme de violence qui est exercée, mais c'est pas une violence totalement déréglée, irrationnelle. Elle s'exerce dans un certain nombre de limites et selon certains codes. Et donc, loin de s'opposer à toute vie sociale, eh bien, la vengeance, c'est l'un des ingrédients de la vie sociale. Et, encore une fois, le problème n'est pas de l'éradiquer, puisque, d'une certaine façon, Aristote va montrer qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire à la vie de la cité. Mais le problème, c'est de la réguler. Le problème, c'est de faire en sorte que la vengeance soit juste. Le problème, c'est d'établir une juste vengeance. Et la justice n'est pas en rupture avec la vengeance. Alors, avant d'examiner les analyses d'Aristote, je vais lire ici ces textes, eh bien, et puis pour que nous puissions en apprécier l'originalité, je voudrais d'abord, par souci de clarté, vous présenter les traits négatifs par lesquels nous caractérisons ordinairement la vengeance. Et en faisant une sorte de repoussoir, en quelque sorte. Ça, c'est ce que je ferai dans un premier temps, ce sera assez rapide. En fond, je résumerai la conception que nous avons tous, au fond, spontanément, de la vengeance. Ce pourquoi elle nous paraît quelque chose de négatif. Puis, je me demanderai ensuite pourquoi et à partir de quand ce jugement négatif sur la vengeance s'est imposé en Occident. Ce serait très rapide aussi là-dessus. Je noterai ici simplement dans ma présentation que ce jugement négatif apparaît à partir du moment où on réduit la vengeance à un phénomène purement psychologique, à un phénomène purement passionnel et irrationnel. Et ici, on pourra convoquer deux références. Deux références. Vous avez d'abord le théâtre d'Euripide, une tragédie comme Médée, qui marque une étape, j'en parlerai un petit peu. Et puis, alors ça c'est Euripide, c'est un auteur de la fin du 5e siècle avant notre ère. C'est-à-dire qu'il, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et Euripide, c'est pas par hasard qu'il va écrire ce type de tragédie. Il écrit cela à un moment où la cité grecque commence à entrer en crise. Et puis, deuxième référence, beaucoup plus tardive, 1er siècle, c'est un philosophe romain, un stoïcien romain très célèbre, Sénèque, qui vit sous l'empereur Néron. Eh bien, Sénèque écrit au 1er siècle un traité de la colère, Deira. Et il écrit ce traité pour critiquer violemment la vengeance, la colère qui donne lieu à la vengeance, au moment où justement la vengeance devient une affaire exclusivement privée, au moment où la cité antique est morte, où le fait civique de la cité antique est mort. Donc il y a une mutation, vous voyez, de l'être humain, une mutation de la sensibilité qui va peut-être, sans doute, certainement même, expliquer cette transformation. Et dans un troisième temps, alors j'aborderai vraiment, là, cette fois-là, l'analyse d'Aristote. Nous n'aurons pas le temps d'aborder une quatrième partie qui serait la lecture de Sénèque. Sénèque écrit contre Aristote, explicitement. Ça, c'est intéressant de les confronter. Mais, évidemment, on n'aura pas le temps, étant donné les 4 heures que nous avons. Alors, donc, par quel trait négatif caractérise-t-on ordinairement la vengeance? Bon, je suis rapide, je suis rapide sur là-dessus. Alors d'abord, je résume d'abord, je dirais qu'elle se révèle inefficace, démesurée et irrationnelle dans son principe. Et vous trouvez, au fond, une critique claire, explicite de la vengeance chez un philosophe allemand du 19e siècle, très important, qui s'appelle Hegel, dans ses principes de la philosophie du droit. Et aussi, on peut trouver ce type de critique chez un auteur comme René Girard dans La violence et le sacré. Alors, si je résume, premier caractère négatif de la vengeance, elle est condamnable d'abord parce qu'elle est inefficace. Expliquons. La contre-offense du vengeur. Le vengeur se venge, donc il répond à une offense. Donc la contre-offense du vengeur, loin d'éteindre le conflit né d'une première agression, ne fait en fait que relancer la violence. Donc la vengeance n'en finit ainsi jamais d'enchaîner la violence à la violence. Du fait que l'offensé intervient seulement de manière passionnelle, selon son simple point de vue particulier, eh bien, la réparation qu'il vise en se vengeant se présente comme une nouvelle violence aux yeux du premier offenseur, aux yeux du premier agresseur. Elle n'apparaît pas, si vous voulez, au premier offenseur, à l'agresseur initial, elle n'apparaît pas comme la réalisation d'un droit qui a été bafoué. Il la vit lui aussi comme une violence. Par conséquent, la vengeance provoque inexorablement, à l'infini, de nouvelles vengeances. On n'en finit jamais. Et René Girard a une formule très claire, très simple, pour dire tout cela. Il dit « La vengeance, c'est un processus infini, interminable. » Interminable. Donc ça, c'est le premier trait négatif. Deuxième trait négatif, la vengeance est condamnable également parce qu'elle est sans mesure. Elle est incapable d'assurer l'équilibre entre l'agression et sa réparation. Et pour quelle raison ? Elle est incapable d'assurer un équilibre entre l'agression et sa réparation. Parce qu'elle est animée par un sentiment de colère qui est ce qu'il y a de plus opposé à l'idée d'égalité qui est inhérente à la justice. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qui anime la vengeance ? Donc, un sentiment de colère qui est toujours une passion excessive, qui vise une surenchère permanente. D'ailleurs, Sénèque, le fameux Sénèque, dira de la colère qu'elle est une passion effrénée et indomptable. Effrénée et indomptable. C'est une passion que la raison, selon lui, ne peut ni canaliser, ni modérer. Donc, on ne peut pas attendre autre chose de la vengeance. Vous voyez ? Elle ne peut pas instaurer, finalement, un équilibre, donc elle ne peut pas être juste. Troisième trait négatif, l'intention même de la vengeance est condamnable. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle est tournée vers le passé et sa réparation. C'est ce que lui reproche un sophiste comme Protagoras, dans un dialogue de Platon qui s'appelle « Le Protagoras », et aussi, c'est ce que lui reprochent les stoïciens, dont le fameux Sénèque. Selon Protagoras, par exemple, eh bien, frapper quelqu'un seulement à cause d'un acte qu'il a commis dans le passé, c'est absurde. C'est absurde. Pourquoi ? Parce que cet acte est irréversible, ineffaçable. Et punir de cette manière, dit Protagoras, c'est s'abandonner comme une bête féroce à une vengeance qui est dénuée de raison. Et à la vengeance qui est tournée vers le passé, vers un passé révolu, qu'on ne peut pas supprimer, eh bien, Protagoras oppose l'intelligence d'un châtiment qui vise au contraire à produire un avenir meilleur, qui est tourné vers l'avenir. De quelle manière la punition, le châtiment peut-il être intelligent ? Eh bien, quand il vise à corriger, par exemple, les mauvaises dispositions du criminel. Quand le châtiment vise à amender le criminel pour qu'il ne recommence plus. Ou, sinon, parce que le châtiment vise à dissuader ses concitoyens de suivre le même chemin. Vous voyez, l'efficacité de la peine, quoi. Alors, vous voyez, voilà, vous avez trois traits négatifs. Eh bien, par ces trois traits négatifs, donc la vengeance apparaît comme, au fond, un repoussoir. Elle est présentée comme le stade archaïque de l'humanité. Et quand je dis archaïque, il faut l'entendre en deux sens. Au sens temporel, Elle désigne un état de barbarie supposé avoir précédé la civilisation. Et puis au sens axiologique, c'est-à-dire en termes de valeurs, elle est le règne de la violence arbitraire, de la violence sans frein, dont les hommes doivent absolument sortir s'ils veulent pouvoir vivre humainement. Donc voilà, cette représentation de la vengeance qui est la nôtre, hein, qui est largement la nôtre, et qui permet de justifier, justement contre elle, la construction du droit pénal. Hein, quand on justifie la construction du droit pénal, on lui oppose la vengeance. Hein, la vengeance sert, voyez, à justifier la construction du droit pénal. Évidemment, du même coup, cette représentation de la vengeance interdit de comprendre d'autres formes de société que la nôtre. Elle nous empêche de voir que la vengeance peut participer d'un autre mode de régulation sociale que celui de nos sociétés, comme celui, justement, de la cité antique, avant que celle-ci ne s'effondre et laisse la place à une société régie par un État. D'où le second point, maintenant, de mon propos. À partir de quand et pourquoi ce jugement négatif sur la vengeance, dont nous sommes familiers, eh bien, à partir de quand et pourquoi ce jugement négatif s'impose-t-il en Occident? Eh bien, on peut le dire, c'est un peu schématique, mais grossièrement, c'est vrai. On peut le dire, ce jugement apparaît au moment où un certain type d'engagement du citoyen dans les échanges sociaux est en reflux. C'est-à-dire au moment où la gestion des échanges sociaux devient surtout l'affaire de l'État. Et quand je parle de l'État, il faut se rappeler ce que ça signifie, l'État, c'est l'organisation du pouvoir politique qui se trouve au-dessus des citoyens. Hein ? L'organisation du pouvoir politique qui régit la société. Alors que la cité, c'est une organisation politique qui se trouve dans les mains des citoyens. Qui se trouve dans les mains des citoyens et qui n'implique aucune instance qui lui soit supérieure. Alors évidemment, vous me direz, oui, mais les citoyens à Athènes, ils ne sont pas si nombreux que ça. Il y a les esclaves, il y a les métèques, etc. C'est vrai. Hein ? Tous ne sont pas citoyens. Mais ceux qui sont citoyens participent activement, vous voyez, à la vie politique de la cité. Il n'y a pas d'État. Alors, est-ce un hasard si, dès les débuts de la décadence de la cité athénienne, donc à la fin du 5e siècle, avant notre ère, est-ce un hasard si, à ce moment-là, le poète tragique Euripide, dont je vous ai parlé, présente dans ses tragédies la vengeance comme un phénomène passionnel qui mène les individus à la folie et à la destruction. Et si vous regardez bien tout de même, chronologiquement, quelques années seulement séparent Eschyle d'Euripide. Le premier, Eschyle, naît en 525 et meurt en 456. Et le deuxième, Euripide, naît en 480 et meurt en 406. Donc il y a assez peu d'années d'écart entre les deux. Hein ? Et pourtant, il y a un monde entre eux. Il y a un monde entre eux. Eschyle, souvenez-vous de l'Orestie, ne distingue pas la justice de la vengeance. Hein ? Même si, bien sûr, il en critique les excès. Euripide, au contraire, souligne systématiquement l'injustice et l'irrationalité de la vengeance. Et évidemment, quelle est la différence? C'est que pour Eschyle, vous avez vu, le lien social a beaucoup d'importance. Le lien social a beaucoup d'importance, il a une valeur constituante pour les individus. Pour Euripide, ce n'est vraiment pas le cas. Et le théâtre d'Euripide développe une psychologie qui insiste beaucoup sur le caractère irrationnelle des passions qui oppose les hommes et qui les déchire. Et à ce désordre passionnel, il n'envisage aucun correctif qui puisse venir de la cité. La cité ne peut pas opérer une régulation qui permette aux hommes, en quelque sorte, de s'intégrer à elle et puis de modérer leurs passions. Pas du tout. Une des tragédies qui illustre le mieux l'idée, cette idée de vengeance irrationnelle, vous la connaissez sans doute, c'est Médée. Je résume le thème. Pour se venger de son époux Jason, qui l'a délaissé pour une autre femme, eh bien Médée détruit tout. Elle détruit tout ce qui faisait encore le prix de sa propre vie. Elle tue ses enfants qu'elle chérissait. C'est vraiment le type même du crime passionnel. La vengeance, ici, effectivement, apparaît comme un processus qui, loin de pouvoir d'ailleurs apaiser la blessure narcissique de Médée, finalement, élargit cette blessure. Elle élargit de manière suicidaire. Vous savez, la vengeance débouche sur quelque chose de suicidaire, puisqu'elle se détruit à travers ses enfants, en voulant détruire son époux. Alors, ce théâtre nous parle beaucoup plus. Euripide est beaucoup plus proche de nous, puisque c'est ainsi que nous envisageons surtout le théâtre, comme un théâtre psychologique. Après Euripide, mais bien plus tard, je l'ai dit, au 1er siècle de notre ère, donc le philosophe Sénèque, stoïcien, rédige donc ce fameux traité de la colère. Et là encore, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard parce que, et c'est le philosophe Hegel justement qui va le montrer, les philosophes stoïciens, dont Sénèque, ce sont des penseurs qui réfléchissent les conditions de vie dans l'État. Les conditions de vie dans l'État. À partir du moment où la cité est morte. Lorsque les hommes ne s'appréhendent plus comme des citoyens qui interagissent dans des échanges sociaux, lorsqu'ils sont désormais repliés dans la sphère privée de leur existence. Vous voyez bien que les stoïciens insistent beaucoup sur la citadelle intérieure de la conscience. L'homme est avant tout un individu autonome qui se vit indépendamment du lien social chez les stoïciens. Vous voyez ? Et l'État, évidemment, gère les rapports sociaux. C'est dans, vous voyez, cette conception de l'individu privé, vous voyez, replié sur lui-même, elle commence à naître effectivement avec le stoïcisme. Il y a un reflux de la vie civique avec le stoïcisme. Et donc c'est dans le Deira, de la colère de Sénèque, que se formule pour la première fois, avec la plus grande vigueur, une critique de la vengeance qui va en fait devenir la nôtre, et qui la présente comme une passion essentiellement destructrice, qui ne peut pas effectivement animer la vie sociale. Et évidemment, comme je le disais, cette critique triomphe au moment où désormais la gestion des échanges sociaux devient l'affaire de l'État. Comment Sénèque dit à Rome, c'est l'Empire romain. Vous savez bien les déboires qui vont lui arriver, le pauvre. Alors, il m'a semblé, vous voyez, nécessaire de comprendre comment cette critique de la vengeance s'est formulée, afin de mieux apprécier, justement, en contrepoint, l'originalité des analyses d'Aristote en matière de philosophie pénale. Et nous allons voir ainsi que, pour Aristote, je l'ai dit, la vengeance ne se réduit pas à un phénomène passionnel d'ordre exclusivement privé, elle a une dimension sociale et politique. Alors, voici le plan, si vous voulez, que je vais suivre. Vous l'avez aussi sous cette feuille. D'abord, je vais montrer qu'elle a une source passionnelle. Et cette source passionnelle, c'est la colère. C'est la colère qui constitue, si vous voulez, sa dynamique passionnelle. Mais quand je parle de la passion de la colère, il faut savoir que c'est une passion sociale. Elle ne se sépare pas d'un investissement social qui lui donne justement une signification morale. Et donc, voilà les étapes que je vais suivre. Alors, mes référents, je répète, c'est la rhétorique et l'éthique à Nicomaque. Donc d'abord, je vais montrer la dynamique passionnelle de la colère, et là, je vais m'appuyer surtout sur la rhétorique. Ensuite, j'étudierai la dimension éthique de la vengeance, montrer qu'elle peut, voyez, avoir un caractère moral. C'est assez surprenant, mais il faut l'entendre. Et puis, enfin, je montrerai que, loin d'exclure la vengeance, loin de la refouler, la justice de la cité, celle qui passe par les tribunaux, eh bien, elle permet de lui trouver, justement, une forme élaborée. Elle lui permet de devenir une juste vengeance. Donc, voilà les trois points que nous allons aborder. Je commence par le premier, donc la dynamique passionnelle de la vengeance. Alors, à la source de la vengeance, je disais, il y a la colère, qui est une passion sociale. Et là, vous avez un premier texte que je vous ai donné. Alors, c'est... En fait, c'est surtout ce chapitre-là qui est intéressant. C'est dans le livre 2 de la rhétorique. Je pense que le chapitre 2 ou le paragraphe 2 du livre 2. Bon, je ne sais plus, c'est de mémoire que je vous dis ça. Regardez le premier paragraphe. La définition qu'Aristote vous donne de la colère. Admettons que la colère est le désir impulsif et pénible de la vengeance notoire, d'un dédain notoire en ce qui regarde notre personne ou celle des nôtres, ce dédain n'étant pas mérité. Vous vous souvenez que dans la pièce d'Eschyle, il est tout le temps question de colère, de courroux. Ça revient sans arrêt. Vous lisez l'Iliade et l'Odyssée, il est sans cesse question de colère. C'est une passion qui revient en permanence. Alors, donc, à l'origine de la colère, il y a le dédain, le mépris. En fait, le dédain, ça comprend le mépris, ça comprend la vexation, ça comprend l'outrage, bon, enfin, peu importe. Et à l'origine de notre colère, donc, il y a le mépris qu'autrui nous adresse en contestant notre valeur ou celle des nôtres. Et ce mépris peut se manifester sous de nombreuses formes, par des paroles, par des actes, par la violence, etc., etc., et de manière plus ou moins intense. Alors, par des paroles d'abord, si vous voulez. Je suis le propos, c'est assez facile à comprendre. Par exemple, on est insulté. L'insulte fait partie de l'expression du mépris. Alors dans ce cas, le message est clair. Il n'y a pas d'interprétation. Mais dans bien des cas, il y a matière à interprétation. On ne peut être sûr qu'il y a mépris que si, bien sûr, on prend en compte les circonstances du propos de celui qui vous méprise et puis son intention. Il y a, comme le dit Aristote, il y a parfois des mots qui peuvent échapper à votre interlocuteur, des paroles énoncées à tort et à travers. Et vous voyez très vite... qu'il ne les assume pas, il les regrette. Il les regrette. Il regrette aussitôt ses paroles. On ne peut pas dire dans ce cas-là, si franchement il regrette ses paroles, qu'il y a mépris, qu'il y a manifestation du mépris. Il ne peut y avoir de mépris, et ça, Aristote insiste là-dessus, il ne peut y avoir de mépris que s'il y a bel et bien intention caractérisée de mépriser. Le mépris, comme dit Aristote, est chose volontaire. En tout état de cause, vous voyez, dans le mépris, vous avez deux choses. Vous avez, si vous voulez, ce qui est factuel, la parole, le geste qui vous est adressé, et puis il y a le sens de la parole, le sens de l'acte. Vous voyez, c'est comme les linguistes qui distinguent, si vous voulez, le signifié du signifiant. Il y a la matière sonore d'un mot, et puis il y a son sens, son signifié. Hein, bon. Eh bien, c'est la même chose. Ici, vous avez le sens d'une parole, et puis vous avez la parole en tant que telle, qui peut ne pas forcément exprimer un sens méprisant. Vous voyez, il faut distinguer les deux. En tout cas, le sens, pour discerner le sens, il faut le replacer dans un contexte. Il faut être sûr de l'intention du locuteur, c'est ce que je vous ai dit, et vous ne pouvez considérer le sens d'une parole de mépris, vous ne pouvez pas la considérer indépendamment d'un code social. Vous êtes forcément pris dans un code social. Il y a des pratiques qui vont déterminer le sens de ce qui vous est adressé. Alors, le mépris peut aussi se marquer par des actes, et Aristote parle par exemple de vexation. Et qu'est-ce que c'est qu'une vexation? C'est dans le texte que vous avez sous les yeux. C'est un empêchement aux volontés d'autrui. C'est-à-dire, au fond, tout ce qui vient contrecarrer volontairement par une action ce qui me tient à cœur, c'est une vexation. Si autrui sait imparfaitement quand, n'agissant comme il le fait, il contrarie mon désir profond, eh bien, effectivement, il me vexe. Il pratique une vexation. Donc, on peut... Alors, il y a encore, c'est pareil. On peut contrecarrer le désir d'autrui sans faire exprès, accidentellement, ou par ignorance. Bon, mais dans ce cas-là, ce n'est pas du mépris. Ce n'est pas du mépris. Ce n'est pas une vexation. Même si c'est un dommage, même si autrui, sans faire exprès, effectivement, me crée un dommage, matériellement, vous voyez, vous avez un dommage, mais vous ne pouvez pas dire que ce dommage que vous subissez est une vexation. Parce que autrui, peut-être, ne l'a pas fait exprès. Ou il vous a créé un dommage sans s'en rendre compte. Bon. Donc, dans le cas de la vexation, il y a intention manifeste de contrecarrer le désir d'autrui. Et le degré le plus élevé du mépris est constitué par ce que Aristote appelle l'outrage. C'est très descriptif ce que je vous dis là. Mais vous voyez, Aristote suit de très près, finalement, les différentes sortes d'expressions du mépris. Et qu'est-ce que c'est que l'outrage? Eh bien, la définition vous en est donnée. Regardez, dans le texte, colonne de gauche, vers le bas de la page, enfin, le dernier paragraphe du texte, pas celui qui est tout en bas, qui n'appartient pas au même texte, mais vous voyez, ça commence par « De même, celui qui outrage dédaigne, car l'outrage, vous voyez, voilà la définition, car l'outrage consiste en des actes ou des paroles pouvant faire éprouver de la honte au patient. » Alors le patient, ici, c'est un mot qu'emploie souvent Aristote, le patient, c'est celui qui pâtit, c'est-à-dire c'est celui qui subit. Ça veut dire tout simplement ça. Passion, la passion étant le contraire de l'action. Bon. Donc, l'outrage consiste en des actes ou des paroles pouvant faire éprouver la honte au patient, sans autre intérêt que ce résultat, et pour le simple plaisir, rendre l'appareil n'est pas en effet outragé, mais se venger, et je reviendrai sur cette formule. Donc voilà l'outrage. Et donc, pourquoi l'outrage? Qu'est-ce qui caractérise l'outrage? L'outrage dénote, de la part de celui qui vous offense, une volonté de manifester sa supériorité. Il affirme sa supériorité en vous rabaissant, en quelque sorte. Bon. Mais quelle que soit ici la diversité des situations, des formes du mépris, on peut donc le mépris comme une atteinte à un honneur personnel qui est fondée, avant toute chose, sur la considération sociale. Donc vous voyez que peut pas parler de la vengeance sans considérer le mépris, et le mépris, on ne peut pas en parler sans cet arrière-plan social. Alors, de quel honneur s'agit-il ? Alors, il y a d'abord les honneurs qui sont politiquement décernés, qui sont très importants à Athènes. Hein. On a une grande fonction, on est magistrat, on est stratège, on est... Oui, bon, et ces honneurs-là, hein, qui sont très importants. Mais, de manière plus générale, les honneurs, ce sont les marques de la réputation, de la reconnaissance, qui procèdent de l'opinion publique. Hein ? On a un certain statut, vous voyez ? Et donc, quand quelqu'un nous méprise, eh bien, d'une certaine façon, il porte atteinte à ce statut, à cette image publique que nous avons, et qui est très importante pour un Grec. Très importante. Donc, le mépris met en jeu notre honneur, il met en jeu notre réputation, et comme l'explique ici Aristote, on conçoit qu'il soit encore plus grave, hein, que ce mépris soit encore plus grave, lorsque certains tiers privilégiés en sont les témoins. Vous allez voir de qui il s'agit. C'est-à-dire que la colère est très grande contre ceux qui nous méprisent devant des personnes très importantes, si vous voulez, que nous estimons, que nous admirons. Alors, on va le lire, ce texte. Vous voyez, par exemple, prenez la colonne de droite. On va lire le texte. Alors, attendez, on va pas lire depuis le début. On va 1, 2, 3, 4, 5... Le sixième paragraphe. Le sixième paragraphe. Vous avez trouvé ? C'est donc... Hein ? Bon, il faut bien commencer quelque part. Donc, c'est donc dans ces dispositions qu'on est aisément porté à la colère. Alors... On l'éprouve contre ceux qui rient de nous, nous tournent en ridicule, nous raillent, car ils nous outragent. Contre ceux qui nous causent tous les préjudices, qui sont des indices d'outrage. Or, telles sont nécessairement les actions qui n'ont pour but ni une revanche, ni l'intérêt. Car alors, il semble qu'elles aient pour cause le désir d'outrager. En outre, voilà, j'y viens. En outre, contre ceux qui nous dédaignent devant cinq sortes de personnes. Celles dont nous sommes les rivaux, que nous admirons, dont nous voulons être admirés, qui nous inspirent du respect, à qui nous en inspirons. Si on nous dédaigne en leur présence, notre colère est plus grande. Et vous imaginez, c'est en société... Et vous avez un sale type, là, qui vous manifeste des marques de mépris devant des gens très importants dont que vous admirez, dont vous tenez à leur estime, et il vous fait un portrait de vous épouvantable. Alors là, vraiment, la colère est à son comble. Vous voyez ? Hein, voilà, là, vraiment, il vous casse la baraque, comme on dit. Alors, donc, cependant, je poursuis toujours cette description, oui, une sorte d'analyse comme ça, assez précise des situations où se joue le mépris. La colère n'est pas nécessairement proportionnelle à la valeur que l'on nous a contestée. Je prends un exemple. Si dans un domaine déterminé, on se sent sûr de soi, on n'est pas atteint par une marque de mépris. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. On est tellement sûr, tellement supérieur, tellement sûr de soi dans un domaine que franchement, bon, si on vous dit que vous êtes nul dans ce domaine, franchement, vous n'êtes pas atteint. Quoi. Pauvre type, je ne peux pas te répondre. Bon, inversement, la colère est bien plus vive. Si nous avons mauvaise conscience, si nous soupçonnons qu'en fait nous ne possédons pas ou nous possédons assez peu les qualités que l'on nous dénie. Quand je ne suis pas très sûr de moi, quand je suis un peu vulnérable, bah oui, effectivement, là, le mépris nous atteint, c'est sûr. Hein. Il nous atteint dans une situation de vulnérabilité, hein, où nous ne sommes pas vraiment sûrs de notre fait. Et bon, il faut que nous défendions pourtant notre statut, notre image sociale. Alors, si nous laissons dire et si nous laissons faire, cela signifie que nous reconnaissons nos défaillances. Nous subissons alors sans colère. Il y a des gens qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes, qui intériorisent les jugements que les autres portent sur eux, point qu'ils ne réagissent pas. Ils se laissent mépriser sans réagir. Eh bien, celui qui se laisse mépriser ainsi sans réagir, c'est un homme, dit Aristote, qui a une âme d'esclave. Très important, il y a une morale aristocratique derrière, hein, attention. C'est une âme d'esclave, c'est ce qu'il dit dans l'éthique à Nicomaque, c'est-à-dire ne pas réagir, se refuser à la colère, c'est perdre sa dignité, son honneur de citoyen. Un citoyen réagit. Un citoyen digne de ce nom réagit, il ne se laisse pas insulter, il ne se laisse pas mépriser. Ou alors, il a une âme d'esclave. À l'autre extrême, il y a celui qui ne réagit pas aux marques de mépris, car il s'estime bien au-dessus de celui qui prétend l'offenser et le considère comme un être inférieur. Pour prendre un exemple, on châtie un esclave pour son insolence, mais on ne s'en venge pas. Vous voyez ? On le châtie, voilà. Il fait donner des coups de fouet. Mais on ne va pas se venger contre un esclave, puisqu'il n'est pas à la même hauteur. Vous voyez ? Cette idée-là. Et vous avez une excellente illustration de cette situation. J'ai trouvé dans le livre 6 de l'Esprit des lois de Montesquieu, qui au fond un philosophe imprégné d'Aristote. Hein. Et Montesquieu, dans l'Esprit des lois, je vais vous citer cet extrait, Montesquieu rapporte le mot de Charles II, roi d'Angleterre, celui qui précède le nouveau. Je viens sur Charles III, Charles II. Eh bien, voici ce que dit Montesquieu, je cite. « Il vit, en passant, un homme au pilori. Il demanda pourquoi il était là. « Sire, lui dit-on, c'est parce qu'il a fait des libelles contre vos ministres. »« Le grand sot, dit le roi. » Que ne les écrivait-il pas contre moi ? On ne lui aurait rien fait. Il est tellement au-dessus que je n'aurais même pas réagi, moi, franchement. Est-ce que les ministres, ils ne sont pas tout à fait... Bon, c'est un peu plus que le bonhomme en question, mais ils ne sont pas tellement plus. Alors cela, évidemment, réagissent. Vous voyez, quand on est à niveau égal, on réagit. Vous voyez, la vengeance n'est possible que sur fond d'égalité, d'une certaine façon. Vous voyez ? C'est-à-dire que elle suppose une certaine égalité de conditions. On ne se venge ni d'un inférieur, un esclave, un inférieur vraiment inférieur, hein, ni d'un supérieur qui se trouve tout au haut de l'échelle. Voyez. Mais attention, s'il est vrai que la vengeance n'est possible que sur le fond d'une certaine égalité de conditions, le mépris consiste à minimiser la personne qu'on méprise et à chercher à se doter d'un statut supérieur sur elle. Vous voyez ? Et ce qui motive le mépris, c'est le besoin de se distinguer, de manifester sa supériorité en rabaissant l'autre. Hein ? Il y a cette idée. Bon. Alors, pourquoi méprise-t-on ? La question que se pose ici Aristote. Celui qui méprise n'est pas intéressé. Je veux dire par là, il ne cherche pas un bénéfice matériel, il ne cherche pas un avantage matériel. Comme l'écrit Aristote, alors je reprends d'ailleurs la formule que j'avais citée tout à l'heure, quand il parlait de l'outrage. L'outrage consiste en des actes ou des paroles pouvant faire éprouver de la honte au patient, et voilà ce qu'il ajoute, sans autre intérêt que ce résultat est pour le simple plaisir. Hein ? Pour le simple plaisir. C'est-à-dire qu'il y a un plaisir de mépriser. Il y a un plaisir de mépriser. Et à quoi tient ce plaisir? À l'imagination de sa supériorité. Parce qu'on croit pouvoir manifester, prouver sa supériorité en méprisant. Et il ajoute d'ailleurs plus loin, regardez bien la suite du texte, la cause du plaisir pour ceux qui outragent, c'est qu'ils croient, en faisant du mal, mieux affirmer leur supériorité. Et il prend l'exemple des jeunes et des riches. Aussi, les jeunes gens et les riches sont-ils enclins à l'outrage? Ils s'imaginent qu'en outrageant, ils se montrent supérieurs. Vous voyez? Les jeunes, l'outrage facile. Hein, bon. Alors, donc ce plaisir qui consiste à se prouver sa supériorité en méprisant les autres est éminemment social. Il manifeste le fait que les hommes font grand cas du jugement des autres. Ce qui est remarquable, si vous voulez, dans les analyses d'Aristote, c'est qu'il montre à quel point les hommes ne sont pas des individus repliés sur eux-mêmes, mais toujours en interaction avec les autres, dans un espace public. Jusque dans leurs conflits, les hommes manifestent que ce qui leur importe le plus, ce sont les autres hommes. Alors, vous pourriez dire, non, maintenant, le mépris, c'est tout de même une façon d'être hostile aux autres, de ne pas aimer les autres. Mais non, d'une certaine façon, oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est une certaine manière de reconnaître l'importance du fait social. Vous voyez ? C'est très important. Et c'est bien ce qui caractérise ici la vie civique. Dans la vie civique, bah, vous n'avez pas que du positif, hein. Vous avez aussi, vous voyez, ces passions sociales, hein, qui mettent les hommes en rivalité les uns avec les autres, et qui les conduisent à cette espèce de phénomène négatif. Bon. Donc, le mépris, alors, il suscite, c'est lui, quand vous l'éprouvez, quand vous l'essuyez, c'est lui qui suscite votre colère, et la colère, c'est le désir de vengeance. C'est-à-dire que, quand vous êtes... Pourquoi êtes-vous en colère? Bah, parce que vous souffrez du mépris. Vous souffrez, vous éprouvez une certaine douleur. Bon, et la douleur éprouvée par celui qui a subi un affront, c'est elle qui est à l'origine de la vengeance. À la base, il y a une souffrance, il y a une douleur éprouvée du fait d'essuyer le mépris. Donc, la colère, et c'est ça qui est aussi très intéressant dans l'analyse d'Aristote, c'est que la colère, elle est déjà par elle-même une anticipation de la vengeance. C'est-à-dire quand on se met en colère, on éprouve déjà sa puissance comme capable de retourner l'offense. On jouit déjà à l'idée qu'on va se venger. Voyez, on imagine déjà, hein, celui qui se met en colère, il éprouve déjà un certain plaisir à se dire qu'il va se venger. Il se projette en imagination dans le futur et il projette déjà la réalisation de sa vengeance. Donc ainsi, vous voyez, le coléreux voit succéder le plaisir à la peine. Vous voyez, d'abord, il éprouve une souffrance, mais ensuite, il compense cette souffrance par le plaisir de se dire qu'il va se venger. Alors, là aussi, vous avez bon, d'autres passages, moi, je ne vais pas les lire tous. Vous voyez, évidemment, à ce plaisir d'imagination pourra succéder le plaisir de la vengeance elle-même. Vous avez déjà un plaisir en imagination qui va ensuite, évidemment, si la vengeance se réalise, être suivie d'un plaisir de la vengeance elle-même. Alors, en quoi consiste, encore une fois, ce plaisir de la vengeance? Et ça, c'est très important. Il consiste à imaginer reconquérir sa valeur et sa dignité. C'est-à-dire qu'au fond, la colère, hein, le désir de vengeance, c'est le désir d'exercer une puissance sur celui qui a paru mettre en cause la nôtre. Vous voyez ? Je dirais, pour le dire d'une autre façon, celui qui cherche à se venger, celui qui désire se venger, eh bien, évidemment, il va vouloir infliger une souffrance à l'autre, mais pourquoi de quelle manière, effectivement, cette souffrance lui paraît-elle une bonne chose, au sens où cette souffrance, lui permettra de réaffirmer, lui, sa valeur. C'est-à-dire que ce qu'il veut, ce n'est pas tant la souffrance de l'autre que de manifester par la souffrance qu'il inflige à l'autre, que de manifester ainsi la réattestation de sa propre valeur. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a une sorte de récupération, en quelque sorte, hein, de sa valeur, hein, en se vengeant. C'est-à-dire qu'il abandonne. Vous voyez, quand vous souffrez, vous êtes dans une position dépressive. Hein, vous êtes dans une position dépressive. C'est la position dépressive dans laquelle vous a placé l'outrage. Vous voyez, vous êtes meurtri. Vous êtes meurtri. Eh bien, qu'est-ce que c'est que se venger ? C'est, en quelque sorte, redevenir actif. C'est agir en retour contre notre agresseur afin de manifester notre activité, afin d'affirmer notre honneur. Vous voyez, il y a cette idée-là. Hein. Donc, se venger, et ça, c'est important, c'est retrouver, en quelque sorte, sa dignité. Hein. Et à ce niveau-là, on ne peut pas confondre la colère vengeresse avec la haine. Parce qu'on est tenté de les confondre. On est tenté de dire, oh ben, celui qui se venge, c'est quelqu'un qui manifeste un sentiment de haine. Non. C'est pas la même chose, dit Aristote. Celui qui est, celui qui est haineux, il veut purement et simplement du mal à la personne qu'il est. Et ça va même jusqu'au désir de la détruire, de la supprimer comme un objet. Le vengeur, lui, ne veut pas détruire celui dont il se venge. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin justement de lui pour affirmer sa puissance, pour affirmer sa valeur. Il a besoin de lui pour affirmer sa valeur, donc il ne veut pas simplement qu'il souffre. Quand je me venge de quelqu'un, je ne veux pas simplement, en lui infligeant une souffrance, je ne veux pas simplement qu'il souffre. Je veux qu'il sache qu'il souffre du fait de son offense. Vous voyez ? Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant qu'il souffre que le fait qu'il sache que s'il souffre, c'est parce qu'il m'a offensé. Vous voyez, l'idée, c'est ça. L'homme qui se venge a besoin que celui dont il se venge sache d'où vient la souffrance qui lui est infligée. Bah, sinon, la souffrance serait inutile. Puis franchement, l'autre ne réagissait pas, n'était pas sensible. Bah, ça ne vaudrait pas le coup de se venger. Vous voyez ? Donc, la souffrance ici infligée à celui dont je me venge, cette souffrance n'est pas un but en soi. C'est pas un but en soi. Elle porte un sens, elle porte en elle l'affirmation de la valeur du vengeur. Et au fond, j'ai besoin pour me venger, j'ai besoin que ça se sache. J'ai besoin que cette vengeance se réalise dans l'espace public aux yeux de tous, voyez. La vengeance cherche la visibilité. Elle cherche la visibilité, voyez. Et je suis vengé quand, effectivement, non seulement, bien sûr, l'autre souffre, mais quand tout le monde sait pourquoi il souffre, lui et aussi les autres. Et j'ai ma revanche. Donc la vengeance n'est pas une affaire privée. Ce n'est pas une affaire privée. Bon, elle porte sur une réputation, sur l'honneur, elle engage la reconnaissance, etc., etc. Donc c'est une forme d'échange symbolique. C'est une forme d'échange symbolique et cet échange n'est pas nécessairement opposé à la vie sociale. Il ne débouche pas forcément vers des vengeances destructrices, pas du tout, même Aristote va plutôt dire le contraire. Donc j'en viens au deuxième point de son analyse, la dimension éthique de la vengeance. Alors bien sûr, oui, c'est vrai, la vengeance peut parfois sombrer dans l'excès, elle peut sombrer dans un cycle de violence. Il ne s'agit pas de dire que ce risque-là n'existe pas. Mais il n'y a pas là de fatalité. C'est une des voies possibles, mais ce n'est pas la plus probable. À tous ceux qui répètent que la colère vengeresse est une passion dangereuse, est une passion déréglée, Aristote répond qu'elle fait partie des passions qui peuvent tenir compte des avis raisonnables. C'est une passion qui peut tenir compte des avis raisonnables et qui peut tenir compte de l'expérience sociale. Donc il n'y a pas lieu de l'opposer à la raison et à la vie sociale. Et faut-il le rappeler, je le rappelle, que sans colère et sans vengeance, sans le désir de rendre le mal pour le mal, ben nous serions des esclaves. Et il n'y a pas de cité d'esclaves. Une cité, c'est composé d'hommes libres, de citoyens. Vous voyez ? Donc, un homme qui ne désire pas se venger, eh bien, effectivement, c'est un homme indifférent aux enjeux de la vie sociale et politique. C'est ça qui est très important pour elle. Donc, la colère vengeresse, c'est une passion à laquelle s'alimente la vie civique. C'est très étonnant, hein, de dire ça. Mais c'est comme ça, effectivement, qu'un citoyen, grec, l'entend. Alors, évidemment, la colère, de ce point de vue-là, ce n'est pas un vice de la nature humaine qu'il faudrait réprimer absolument. C'est une passion naturelle. Alors, le seul fait d'éprouver cette passion n'est ni bon ni mauvais en soi. On n'est pas objet de blâme ou d'éloge du simple fait de se mettre en colère. Le simple fait de se mettre en colère n'a pas de signification, si vous voulez. C'est ni bien ni mal. Le seul problème, c'est celui de savoir ce que nous faisons de nos colères. Qu'est-ce que nous faisons de nos colères ? C'est ça la question éthique. Qu'est-ce que nous faisons de nos colères ? Est-ce que nous sommes capables de canaliser leur énergie en les préservant de l'excès ou à l'inverse du défaut ? Est-ce que nous sommes capables de les réguler, de les orienter, de les exercer de manière appropriée ? Vous voyez ? De l'exercer de manière appropriée. C'est ça qui est important pour Aristote. Alors, celui, on l'a dit, celui qui est insuffisamment disposé à la vengeance se situe très bas sur le plan moral. Pourquoi ? Parce que être incapable de se venger, je répète, ça j'insiste, c'est être incapable par son impassibilité de sentir ce qui se joue dans les rapports sociaux. Il y a une forme d'impassibilité et d'indifférence qui est nulle. Un citoyen se sent concerné. Il est sensible aux enjeux sociaux, donc forcément, il n'est pas étranger à la vengeance. L'excès inverse existe, bien sûr, et il est beaucoup plus répandu. Ici, évidemment, il y a des gens qui se vengent pour un oui ou pour un non. Il y a ceux qui se mettent en colère contre des personnes qui ne le méritent pas, avec une violence disproportionnée, trop rapidement, trop longtemps, trop souvent. Vous savez, effectivement, là, dans ce cas-là, quand la colère est excessive, et qu'elle mène à la vengeance d'une manière absolument excessive et disproportionnée, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez ? C'est ce qu'il faut éviter. Bon. Évidemment, ça peut même devenir une habitude. Aristote, c'est celui qui invente, c'est vrai, le terme d'habitus, que les sociologues reprennent aujourd'hui. L'habitus, c'est au fond une disposition, une certaine manière d'agir qu'on a acquise justement par l'habitude. Eh bien, vous avez des gens qui deviennent irascibles. Vous avez des gens dont le caractère et d'être irascibles. Ils se sont habitués à se mettre en colère très facilement, à tout propos. Et, ils ripostent pour n'importe quoi. Et puis, vous avez aussi, par contre, des gens rancuniers. Alors, les rancuniers, eux, sont un vrai problème, parce que eux, ils ne ripostent pas immédiatement. Ils gardent ça pour eux. Hein ? Ils contiennent leur ressentiment, et ils sont très dangereux. Ils sont très dangereux parce que Ils n'expriment pas leur colère, donc ils n'ont pas l'occasion de pouvoir en discuter, de la modérer par le dialogue avec les autres. Ils gardent ça pour eux, et le jour où effectivement cette colère explose, eh bien, elle sombre dans une vengeance extrêmement violente. Vous voyez des... Alors, donc, il y a deux impasses, deux risques qu'il faut éviter. Vous voyez, la vengeance n'est pas toujours bonne. Vous avez l'excès et le défaut de colère. Et vous voyez, c'est toujours par rapport à l'excès et par rapport au défaut que Aristote pense la juste mesure. Hein ? La juste mesure, c'est ce qui se tient à mi-distance entre l'excès et le défaut. Et c'est la juste mesure que doit savoir pratiquer l'honnête homme. L'honnête homme, c'est celui qui sait se venger de manière appropriée, qui se venge avec discernement. Et de toute cette analyse, il ressort que la colère vengeresse, c'est une passion, en fait, éducable. C'est une passion éducable, moralisable. Elle s'éduque par la pratique, par l'exemple. Et l'exemple surtout de ce que Aristote appelle les hommes prudents, les personnes prudentes. Alors, prudent, ici, il faut l'entendre au sens premier du mot. Le prudent, l'homme prudent, c'est l'homme sage. Celui qui fait preuve de sagesse. Vous voyez ? La prudence, c'est ça. Hein ? Originellement, ce n'est pas le fait de faire attention. Hein ? Le prudent, c'est l'homme prudent, c'est le sens de la sagesse pratique. Et alors, il n'y a pas de règle absolue de la sagesse. La sagesse, elle est toujours en situation. C'est-à-dire que l'homme prudent, c'est celui qui sait faire preuve de discernement en fonction des circonstances. Et les circonstances sont variables. Mais si vous mettez à l'école des hommes prudents, vous allez vous-même apprendre à faire preuve de discernement quand vous exercez votre vengeance. Vous voyez, c'est ça l'idée. Alors, vous voyez, donc, évidemment, comme c'est une passion sociale, la vengeance, eh bien, elle est toujours plus ou moins sous le contrôle de l'opinion. Elle est sous le contrôle des mœurs. Elle est sous le contrôle des coutumes. Le mépris lui-même, on l'a vu, ne se conçoit pas indépendamment d'un code social de valeur. Eh bien, la vengeance elle-même doit tenir compte du regard social. Celui qui se venge, il cherche à avoir l'approbation d'autrui. Ah, j'ai bien raison. Hein. Oui, il a besoin d'être conforté. Et s'il sent bien que sa vengeance ne reçoit pas l'approbation des autres, si elle n'est pas conforme, au fond, à ce que les valeurs ambiantes lui permettent de faire, il va être amené à peut-être réorienter son attitude, vous comprenez ? Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas parler de la vengeance comme le font les modernes. Quand ils parlent de la vengeance, ils en parlent comme d'un affect abstrait qui met aux prises deux individus abstraits. C'est-à-dire, je veux dire par là, qu'on parle de ces individus abstraction faite de leur lien social. Comme si, vous voyez, on ne tenait pas compte de l'épaisseur des rapports sociaux dans lesquels ils se situent. Bon. Et puis, la colère vengeresse, elle peut, puisqu'elle est plastique, puisqu'elle est éducable, elle peut tenir compte des avis et des conseils. Elle peut écouter la raison. Et Aristote n'oppose pas la passion et la raison. Il ne les oppose pas, comme le feront les stoïciens. La raison peut avoir prise, ici, sur la colère, sur le désir de vengeance. La raison peut infléchir son mouvement. Elle peut canaliser son énergie. Alors, elle ne condamne, la raison ne condamne pas par principe la vengeance. Elle ne peut pas prétendre agir contre la nature de la colère. Ça, c'est absurde. C'est un discours que ne tient pas Aristote. La raison n'agit pas contre ce qui est naturel. Le mouvement des passions est quelque chose de naturel. Par contre, ce que peut faire la raison, c'est je dirais, canalisée, orientée, modérée, infléchie. Vous voyez ? Elle peut fournir des règles. Elle peut fournir des règles à la passion. Elle peut fournir des règles au désir de vengeance. Vous voyez ? Ça, c'est très important. Et pour terminer cette réflexion sur l'éthique de la vengeance, je reviendrai sur ce que nous disions au tout début de notre propos. Vous vous souvenez, on disait que selon notre représentation ordinaire de la vengeance, et on s'appuyait sur l'analyse du philosophe Hegel, pour nous, il n'y a pas de différence de fond entre la vengeance et la violence de l'agresseur. Au fond, la vengeance, c'est une autre violence qui répond à une violence. Hein ? On ne fait pas de différence. Eh bien, justement, vous allez voir que Aristote répond par avance à ce type d'argument. Je reprends ce que disait Hegel. Hein ? Vous vous souvenez, il disait « La vengeance se présente comme un nouvel affront, comme une nouvelle violence aux yeux du premier offenseur. » Et c'est pourquoi la vengeance ne fait que relancer la violence de manière interminable. C'est ce que disait Hegel et ce que nous sommes tentés de dire. Eh bien, à cet argument, Aristote répond par avance qu'on ne peut pas confondre l'agression initiale et la vengeance qui lui répond comme deux violences équivalentes. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'agresseur a agi pour le simple plaisir, le plaisir de manifester sa supériorité en outrageant, hein, vous vous souvenez, il n'éprouve pas de souffrance. À la base, il n'y a pas de souffrance de la part de l'agresseur. Il n'y a qu'un simple plaisir de me diminuer, hein, de m'outrager. Alors que tous ceux qui se vengent agissent à partir d'une souffrance. Et quand vous vous vengez, vous agissez à partir d'une souffrance. Alors c'est vrai que Aristote reconnaît qu'il y a un plaisir de se venger. Mais attention, c'est pas parce qu'il y a ce plaisir qu'il n'y a pas la souffrance initiale. Hein ? C'est-à-dire que la vengeance, ce n'est pas la simple répétition de la violence de l'agresseur. Et surtout, comme on l'a montré, et ça c'est très important, il faut le redire, celui qui se venge ne cherche pas à dominer l'autre, il ne cherche pas à le mépriser, il ne cherche pas à l'outrager, et je reprends la formule qui se trouve d'ailleurs dans le texte ici, que j'avais lu tout à l'heure mais sans trop la commenter, c'est dans le passage que j'ai lu plusieurs fois quand il parle de l'outrage, regardez bien à la fin il dit « rendre l'appareil » n'est pas en effet outragé, mais se venger. Celui qui se venge n'outrage pas. Si celui qui se vengeait outrageait, oui, on pourrait dire qu'on va rentrer dans un cycle interminable de vengeance, de violence. Hein, ça n'en finira pas. Mais comme, au fond, celui qui se venge n'outrage pas, il ne méprise pas, comme la vengeance n'est pas un nouvel affront, eh bien, elle n'entraînera pas un cycle infernal de vengeance. Et celui qui sera, en quelque sorte, celui qui subira une souffrance de la part de celui qui se venge, saura bien pourquoi. Pourquoi celui qui se venge lui inflige une souffrance. Vous voyez, il ne vivra pas ça comme un affront. Il saura bien que c'est parce que celui qui se venge a vécu d'abord un outrage, a subi d'abord un outrage. Donc on n'est pas, vous voyez, l'argument du processus interminable de la vengeance, non. La vengeance, elle s'arrête dans le fait qu'elle n'est pas elle-même un outrage. J'en viens au dernier point, la justice de la vengeance. Ah, pour l'instant, si vous voulez, on a beaucoup insisté sur la colère. C'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur la dimension sociale, éthique de la vengeance. Et d'une certaine façon, je n'ai pas encore abordé la question qui est en suspens depuis le début, à savoir, est-ce que la vengeance et la justice, c'est quelque chose de différent ou est-ce que c'est pareil ? Alors, donc, ça nous l'avons tout de même dit, on ne peut pas assimiler la vengeance à la violence, puisqu'elle n'est pas une nouvelle violence, et qu'elle n'ouvre pas ainsi la voie à d'autres violences. Puisque, en permettant, je reprends cet argument pour que ce soit bien clair, en permettant à la victime de retrouver en quelque sorte son honneur, de réaffirmer sa valeur, elle n'implique aucun nouvel outrage. Elle n'implique aucun nouvel outrage qui serait cette fois-ci subi par l'agresseur initial. Hein, c'est ça que je veux surtout bien qu'on comprenne. Bon, alors, à partir de là, si vous avez bien ça en tête, vous pouvez comprendre que pour Aristote, la justice de la cité, la justice au sens politique du mot, n'a pas du tout à rompre avec la vengeance, puisque la vengeance n'est pas quelque chose qui vous entraîne dans un cycle infernal. La justice n'a pas à rompre avec la vengeance, elle doit viser, au contraire, à lui apporter, au fond, un degré supplémentaire de mise en forme, si vous voulez. La justice va renforcer la vengeance, elle va lui permettre d'être juste. Voilà, elle va lui permettre de, je dirais, de ne pas s'égarer, hein, comme elle risque de s'égarer si elle est excessive ou si, au contraire, elle est insuffisante. Et en cela, je voudrais le dire avant d'exposer ce que dit précisément Aristote, Aristote s'oppose radicalement à l'intelligentsia, dire comme ça, de ses prédécesseurs, comme Platon. Platon, philosophe du 5e siècle, c'était un élève de Platon, Aristote. Il s'oppose radicalement à Platon sur ce plan, et aussi aux sophistes, comme Protagoras. Pour ses prédécesseurs, le châtiment a pour fonction de corriger le coupable et de le ramener dans le droit chemin. Je résume. Hein. Au fond, la fonction du châtiment concerne essentiellement le criminel. Elle vise le criminel. Et dans le dialogue qui s'appelle le Gorgias, un dialogue de Platon qui s'appelle le Gorgias, c'est facile à comprendre, Platon compare le châtiment à un remède, à un médicament, destiné à guérir l'âme du criminel de l'injustice qu'il affecte. C'est-à-dire, au fond, le but du châtiment est thérapeutique. Vous voyez ? C'est-à-dire que le châtiment a pour but de guérir l'homme de l'injustice qui affecte son âme. Donc, pour Platon, l'injustice, ce n'est pas le préjudice subi par une victime. Non. L'injustice, c'est au fond le mal qui ronge le criminel. Vous voyez ? C'est le mal qui ronge le criminel. Et donc, à partir de là, l'essentiel de la pénalité ne consiste pas dans le rapport du criminel à sa victime, mais l'essentiel de la pénalité concerne le rapport du criminel, au fond, avec la loi. Vous voyez ? Le problème, c'est le criminel. La victime, bon, elle a subi un dommage, oui, bon, d'accord. Mais l'essentiel, c'est le criminel. Vous voyez ? Bon. Eh bien, Aristote s'oppose radicalement à cette conception. Et vous voyez que l'injustice, pour lui, ne qualifie pas l'âme d'un coupable, elle désigne la relation déséquilibrée qui existe entre la victime et son agresseur. Il y a une relation déséquilibrée qui existe entre la victime et l'agresseur, et ce déséquilibre s'explique par le préjudice subi par la victime. C'est le préjudice qui entraîne un déséquilibre entre la victime et son agresseur. Et dans cette perspective, La justice, c'est le prolongement de la vengeance. Elle ne se préoccupe pas de châtier ou d'amender un coupable, vous voyez ? Mais exactement comme la vengeance, elle vise à réparer le préjudice subi par la victime. Elle vise à rendre à la victime sa valeur. Vous voyez ? Et Aristote fait une distinction très importante dans la rhétorique que je vous lis. Alors, je n'ai pas photocopié, mais c'est très court. Et je crois qu'il faut bien retenir cette distinction. Aristote fait une distinction dans la rhétorique entre la vengeance et le châtiment. Et voici ce qu'il écrit. Et comme vous savez que la justice va dans le sens de la vengeance, évidemment, vous comprendrez mieux. Il y a, dit-il, une différence entre la vengeance et le châtiment. Le châtiment a pour fin le patient, c'est-à-dire celui qui subit le châtiment. Celui qui subit le châtiment, c'est le criminel. Donc, le châtiment a pour fin le patient. La vengeance, l'agent qui veut retrouver sa plénitude. Et qui est l'agent qui veut retrouver sa plénitude ? C'est la victime. La victime qui s'est trouvée passive du fait de l'outrage qu'elle a reçu et qui veut redevenir active. Hein. La victime veut redevenir agent, elle veut en quelque sorte récupérer son activité, son honneur, grâce à la peine qui va être infligée au criminel. C'est-à-dire que, au fond, regardez bien, la fonction de la peine, on ne dira pas le châtiment. Vous voyez, le châtiment, c'est un mot qui vaut pour le criminel, si vous voulez, hein, puisque le criminel, dans le châtiment, est le patient, c'est lui qui va le subir. Non, on parlera plutôt de la peine, puisque la peine, la fonction de la peine, c'est de satisfaire la victime. C'est de satisfaire la victime, c'est de la payer en retour du préjudice qu'elle a subi. Vous voyez, au fond, la peine a une fonction réparatrice, compensatrice. Vous voyez ? C'est-à-dire que la peine vise à satisfaire la victime. Donc le but n'est pas de châtier, hein, n'est pas de s'occuper du criminel, le but c'est de satisfaire la victime. Et par là, la peine relève d'une logique de l'échange. Il s'agit de rendre le mal pour le mal, de rendre un mal pour un mal, de rendre une douleur pour une douleur reçue, étant entendu, que la souffrance infligée au criminel, eh bien, permet à la victime d'être soulagée. Vous voyez, la souffrance, le mal que je vais rendre en me vengeant à celui qui m'a fait du mal, ce mal va me soulager. C'est en cela que c'est positif, vous voyez, c'est en cela que c'est réparateur. Il va me soulager et il va, en quelque sorte, me redonner ma dignité, mon honneur. Bon. C'est d'ailleurs pour cette raison, et la justice va aller dans ce sens. Hein. Et c'est pour cette raison qu'on peut comparer, et c'est là-dessus que je termine, l'échange social que vise la vengeance et la justice avec l'échange économique. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que dans la cinquième partie de son éthique, l'éthique à Nicomaque, Aristote distingue deux formes d'échange. Vous avez d'abord l'échange économique, ce qu'il appelle les transactions volontaires. C'est-à-dire que là, vous échangez volontairement. Hein. Vous vendez un meuble pour obtenir une voiture. Bon. Ça, c'est les transactions volontaires qui font la vie économique. Et puis, vous avez les transactions involontaires. Et qu'est-ce qu'il appelle transactions involontaires ? Ce sont les délits et les crimes. Les délits et les crimes sont des transactions involontaires au sens où elles sont subies par la victime. La victime n'a pas voulu ce type d'échange, mais ça lui a été imposé. Et alors, quel est le rôle du juge là-dedans ? Le juge doit intervenir pour corriger l'injustice qui est née du préjudice qu'a subi la victime. Hein, je répète, le juge est là pour corriger l'injustice qui a été subie par la victime du fait du préjudice. Donc il doit rétablir un équilibre. Il doit restaurer une égalité qui a été rompue. Exemple. Alors évidemment, ça va vous faire bizarre au début, mais au début, vous allez comprendre très vite. Du fait d'un vol ou d'un meurtre, une inégalité a été créée. Parce que le préjudice, c'est une inégalité. C'est-à-dire que le préjudice divise en quelque sorte les individus en deux camps, en deux parties. Vous avez le parti de l'agresseur, et puis vous avez le parti de la victime. Bon. On va appliquer le terme de passion à la victime, puisque c'est elle qui subit le préjudice. Et puis on va désigner le parti de l'agresseur par le terme d'action, puisque c'est lui qui cause le préjudice. Terme technique, hein. Bon. Eh bien, vous allez voir que tout se passe comme si, en causant le préjudice, au détriment de la victime, l'agresseur avait obtenu plus que son dû. Il a obtenu plus que son dû, c'est-à-dire que le préjudice désigne un gain obtenu indûment par l'agresseur, et évidemment, à ce gain obtenu indûment par l'agresseur correspond une perte. Une perte, effectivement, subie par la victime. Et la première chose que doit faire le juge, c'est d'abord de déterminer la nature et la gravité du préjudice pour rétablir l'égalité. Étant entendu, encore une fois, que le préjudice crée une inégalité. Et ensuite, pour rendre la justice, qu'est-ce que va faire le juge ? Pour rendre la justice, il va corriger cette inégalité en enlevant le gain obtenu par l'agresseur pour le reporter à la victime. Alors, vous voyez que la peine apparaît comme le moyen d'enlever un gain à l'agresseur pour rétablir l'égalité. Et comment déterminer le juste ? Le juste, c'est le moyen terme entre le plus et le moins. C'est le moyen terme entre le gain et la perte. Alors, vous me direz, tout de même, franchement, tout ça est très bizarre. C'est vraiment bizarre. Et d'ailleurs, vous allez voir, Aristote a déjà pensé à votre objection. C'est-à-dire qu'ici, si vous regardez bien l'opération du juge, elle s'analyse comme un échange consistant à enlever un gain pour réparer une perte. Hein ? Bon, c'est comme ça. Et alors, on peut trouver très étrange l'utilisation des notions de gain et de perte appliquées à la justice pénale, appliquées à la peine. Évidemment, vous aurez compris que, ici, Aristote s'inspire du modèle économique de l'échange pour concevoir la justice pénale. Hein ? Il pense les transactions involontaires sur le modèle des transactions volontaires. Et on peut penser, évidemment, et vous auriez raison, que cette transposition n'est pas pertinente. Et Aristote est tout à fait conscient de la difficulté. Par exemple, vous allez me dire, mais franchement, une blessure subie par une victime, hein, qui vient à cause de son agresseur, en quoi est-ce une perte ? Et un meurtre ? Ouais, pas tout de même, hein ? Vous avez quelqu'un de votre famille qui a été tué, été massacré. Comment vous allez dédommager cette perte ? Et par ressusciter la personne. Bon, alors ça colle pas votre affaire. Ça colle pas. Hein ? Qu'est-ce qui peut compenser un meurtre ? On vous dira non. Hein, un meurtre, c'est pas réparable. Bon, et vous avez raison. Seulement, si vous faites cette objection, C'est une objection qui est juste, mais qui ne comprend pas le fond de l'argumentation d'Aristote. Parce que ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est le juge qui a besoin, pour rendre la justice, de transformer effectivement la blessure en perte du côté de la victime et en gain du côté de l'agresseur. C'est-à-dire, au fond, c'est l'opération du juge qui a besoin de concevoir les choses de cette façon. C'est-à-dire qu'au fond, le juge a besoin de quantifier. Il a besoin, en quelque sorte, de ramener l'injustice à quelque chose de mesurable. Et c'est pour ça qu'il va parler, en quelque sorte, de la passion, de ce qui a été subi par la victime en termes de perte, et qu'il va parler de l'agression en termes de gain. Vous voyez, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Mais regardez bien le texte d'Aristote. Vous avez le texte numéro 2. Il vous répond. Vous avez vu venir. Il vous répond. C'est la page 2. Alors, on va prendre la deuxième phrase. Hein, vous laissez la première. Par conséquent, cet injuste dont nous parlons, qui consiste dans une inégalité, le juge s'efforce de l'égaliser. Vous avez trouvé ? Bon. Et voilà. Et c'est là que j'ai mes exemples. En effet, quand l'un a reçu une blessure et que l'autre est l'auteur de la blessure, ou quand l'un a commis un meurtre et que l'autre a été tué, la passion et l'action, vous voyez ce que ça veut dire, la passion, ce qui est subi, l'action, c'est ce qui est commis. La passion et l'action ont été divisées en parties inégales. Voilà comment opère le juge. Hein. Mais le juge s'efforce, au moyen du châtiment, d'établir l'égalité en enlevant le gain obtenu. Voilà, en fait, celui qui vous a blessé, il a obtenu un gain. Et vous avez perdu quelque chose. Eh bien, que doit faire le juge ? Il doit rétablir l'équilibre, l'égalité. Encore une fois, je répète, c'est vrai qu'une blessure n'est pas en soi une perte ni un gain, mais c'est une. Si le juge procède comme ça, c'est un peu comme. Exactement, le juge, il opère un peu comme la monnaie. La monnaie, elle vous permet d'échanger des biens qui sont totalement hétérogènes, qui sont incommensurables. Comment allez-vous échanger une table contre, je sais pas moi, contre un ordinateur ? Deux choses différentes. Ben, la monnaie vous permet. Eh bien, c'est ce que va faire le juge. Il joue le rôle de la monnaie dans les transactions involontaires. Il va quantifier et il va permettre comme ça d'évaluer la gravité de la peine et puis de retrouver une sorte d'équilibre. Vous comprenez l'opération ? C'est une opération, évidemment, qui ne consiste pas à dire qu'en soi, une blessure est un gain ou une perte. Ça n'a pas de sens. Mais c'est l'opération judiciaire elle-même qui, vous voyez, a besoin de ce type d'exercice. Donc, voilà ce que je voulais dire. Évidemment, il ne faut pas oublier, si vous voulez comprendre ça, hein, que c'est du point de vue du juge, du point de vue institutionnel du juge, qu'on va parler en termes de gains et de pertes pour évaluer la passion et l'action. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Hein. Je vais arrêter là. Alors, il faudrait... Ah, ce serait bien, ce serait de vous lire Sénèque, qui vraiment s'oppose hein, à Aristote, et qui le vise. Hein. Intéressant.
En fait, le juge qui fait, c'est qu'il empêche le face-à-face entre l'agresseur et la victime.
Ah, il joue le rôle de tiers, ça c'est vrai. Oui, le face-à-face, effectivement, risquerait... Voilà, risquerait. Mais attention, il ne s'agit pas de dévaluer le face-à-face. Là, dans le cas de la justice, il y a la médiation du juge, mais dans la vie, il peut y avoir exercice direct de la vengeance sans médiation du juge. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Pour Aristote. Parce que celui qui se venge de façon... d'une manière intelligente, enfin, celui qui se venge, il ne se venge pas n'importe comment. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que dans la vie sociale, on n'est jamais assuré que la vengeance s'exerce de façon pertinente. On est d'accord. C'est pourquoi il peut être bien de faire appel à la justice, à un tribunal qui va effectivement régler le contentieux.
Parce que, je veux dire, le préjudice, la valeur du préjudice, bah, c'est purement subjectif. Donc, il faut qu'il y ait un code social.
Ah oui, là, du point de vue de la justice au tribunal, oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que c'est le juge qui va quantifier. C'est le juge qui opère cette quantification, comme je vous l'ai montré, en s'inspirant du modèle économique. Hein, il faut trouver une forme de régulation, donc une forme de quantification, évidemment, qui peut paraître un peu grossière, mais c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Oui ?
J'aime bien la métaphore du remède sur le châtiment. Je pense qu'elle s'applique aussi à la victime. C'est le remède qui lui permet d'atténuer la souffrance.
Alors, attendez. Là, on est d'accord. Mais il y a deux conceptions différentes du remède. Pour Platon, on est bien d'accord, le remède, c'est le remède qui s'exerce concernant le criminel qu'il faut guérir. Alors, quand ils sont incurables, bon, on les élimine. Hein.
Oui, mais il faut trouver le même remède qui, à la fois, alors, guérisse le criminel et atténue la souffrance.
Oui, mais attention, ça, vous n'êtes plus dans la même conception.
Non,
c'est-à-dire que si c'est effectivement Aristote, qui considère au fond que la justice est dans le prolongement de la vengeance et qu'effectivement la peine doit avant tout satisfaire la victime, oui, effectivement, la peine est un remède pour la victime, permet de l'apaiser. Ah d'accord, mais on s'en fout du criminel, hein, le problème c'est pas le criminel. Vous voyez, c'est-à-dire que le remède ne s'applique pas au même.
Et ça lui permet de trouver cet équilibre.
Oui, mais on ne peut pas mélanger les deux conceptions. On ne peut pas les mélanger. Ou bien on privilégie le criminel, et au fond, la victime. Alors, pour Platon, effectivement, la victime, on en entend à peine parler. Des derniers textes qu'il a écrits, il s'appelle Les Lois, où il reconnaît que la victime subit un dommage, mais il refuse de dire. Enfin, il fait la distinction entre le dommage et l'injustice. La justice concerne le mal dont souffre le criminel. Et toute la démonstration de Platon consiste à dire que, au fond, on ne peut pas être heureux si on est injuste. Vous voyez ? L'homme injuste est malheureux. Alors évidemment, ça c'est quelque chose qui est paradoxal, qui est déconcertant, mais il le démontre. Toute sa philosophie morale est là pour ça. Donc la question c'est de guérir de l'injustice. Et étant entendu que nous sommes tous potentiellement des criminels. Vous voyez ? Voilà, c'est ça le... Mais donc le problème de la victime, de la relation d'échange, non. Il ne pense pas la justice en termes d'échange. Parce que là, c'est vraiment par contre le cas d'Aristote. Hein.
Mais le remède, il a une double fonction. Il apaise la victime. Et il permet que le criminel, qu'il n'y ait pas de récidive.
Ah oui, mais attention, ce que je disais, hein, c'est que vous n'êtes pas dans la même perspective. C'est-à-dire que si vous considérez que la fonction de la peine, c'est de guérir le criminel du mal qu'il ronge, le mal qu'il ronge chez la justice, le châtiment est un remède pour lui. Et on ne s'occupe pas de savoir si le châtiment permet de soulager la victime. On ne s'occupe pas de ça. Par contre, si on est dans la perspective d'Aristote, oui, là, il y a un remède, mais pour la victime, ça l'apaise. Hein, et c'est souvent comme ça que nous parlons, d'ailleurs. Hein. Oui, allez-y.
On peut évoquer peut-être la différence actuellement entre la justice pénale et la justice civile.
Oui.
La justice pénale est un peu la culpabilité,
oui,
et le châtiment, et la justice civile.
Tout à fait.
Évoquant les réparations.
Les réparations, tout à fait, la dommage.
J'ai vu dans la presse, je crois la semaine dernière, il y a 15 jours, une affaire d'agression sexuelle,
oui,
qui avait été jugée au pénal, ou plutôt non jugée au pénal, parce qu'il y avait prescription, l'affaire était très ancienne, mais qui a été jugée, donc il n'y a pas eu de condamnation de l'agresseur, puisqu'il y avait prescription, mais qui a été jugée au civil, et la victime a reçu une réparation, parce qu'il y avait. La prescription n'était pas valable dans ce cas-là, je ne sais plus pour quelle raison, peut-être parce que la plainte la prescription partait du niveau de la plainte, et donc le tribunal, mais c'était une première fois, je crois, a dédommagé une victime d'un agresseur qui n'avait pas été condamné au pénal.
D'accord.
Est-ce que la conception d'Aristote était plutôt civile?
Ah ben voilà, tout à fait. Les crimes et les délits sont privés. Ce sont des affaires privées. Sauf certains crimes qui mettent en danger l'État lui-même. Par exemple, si vous êtes citoyen et vous ne défendez pas votre cité, là, c'est un crime public. Hein, vous voyez qu'il y a une dimension publique. Ou si vous êtes impie, n'honorez pas les dieux de la cité. Vous savez que honorer les dieux de la cité, c'est honorer la cité. La religion ne se distingue pas de la politique. Là, c'est un crime public. Et par contre, vous tuez le frère de votre voisin, c'est une affaire privée. Ah, c'est pas pareil. Et chez les Grecs, c'est comme ça. C'est pas seulement Aristote. Hein. Je crois que dans la cité grecque, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, on est. Et c'est, nous, pour nous, évidemment. Il est interdit de tuer, c'est la loi. Et on n'est pas puni seulement parce qu'on s'en est pris à quelqu'un, mais parce que tout simplement, on a violé la loi et que là, il y aura un accusateur public. Hein. Mais non, c'est pas du tout comme ça que les Grecs voient les choses. C'est vrai qu'on est, dans une autre problématique. Oui ?
Dans la rhétorique de la vengeance d'Aristote, le citoyen, le bon citoyen doit se venger. Parce que s'il se venge.
Doit, pas toujours. Pas toujours. Non, il ne dit pas ça. Il faut se venger quand on le doit.
Hein? Parce que s'il ne se venge pas, il est réduit à l'état d'esclave, donc la cité disparaît.
C'est pas ce qu'il dit non plus. Il ne dit pas si on ne se venge pas, on est réduit à l'esclave. On a l'impassibilité d'un esclave quand on n'a pas le désir de se venger. Ça ne veut pas dire que le désir de se venger doit toujours s'exercer, quelles que soient les circonstances.
Parce qu'il pourrait y avoir la réalité qu'il défend la société, la cohésion sociale, en fait, de la cité.
C'est pas comme ça que ça se. Nous parlons comme ça. Mais non, c'est que, de toute façon, la cohésion sociale... Parce que nous, quand nous parlons de la cohésion sociale de la cité, nous avons presque le point de vue d'un ministre de la Sécurité, quoi.
Hein, vous voyez ? Non, mais pour Aristote, c'est ce sont les citoyens qui font l'assemblée, qui font l'aéropage, qui dirigent la cité. Donc, si
qui construisent tout le temps le lien.
La cité disparaît.
Tout à fait. Et si les citoyens deviennent impassibles et ne réagissent pas aux offenses qui leur sont faites, eh bien, il y a une dégradation de la vie civique.
C'est ça. Donc, peut-être que dans l'idée d'Aristote, l'apologie de la vengeance qu'il fait, c'est peut-être un moyen de préserver la cité.
Oui, vous avez raison, tout à fait. Mais, évidemment, étant entendu que la vengeance, le désir de vengeance est quelque chose de sain, hein? Mais ça ne veut pas dire qu'il est toujours bien, qu'il est toujours bon de se venger. Il y a des gens qui se vengent n'importe comment et qui tombent dans l'excès, dans la violence, etc. Ça, donc, vous voyez, le problème pour Aristote, c'est de définir un usage réglé de la vengeance. Étant entendu qu'il n'y a pas de règle a priori non plus. Il n'y a pas de morale déontologique, comme on dirait. C'est-à-dire une morale qui fixe à l'avance les normes que nous devons suivre en toutes circonstances. Donc, c'est toujours une appréciation. Ce que nous devons faire se jauge toujours en situation, par rapport à une situation qui est toujours différente. La règle ne peut jamais être abstraite de la situation concrète dans laquelle on se trouve.
Ouais. En fait, ce qu'il dit, c'est de choisir ses guerres, quoi. Alors on fait soi-même le juge en disant « Tiens, j'ai ma vengeance, là, j'ai ma
vengeance. » Non, ça vous exprimez ça d'un point de vue très relativiste, vous voyez, très... Non, c'est pas chacun fait... Non, on est justement... Ça, c'est une conception très moderne. L'individu voit midi à sa porte, il est un petit peu replié dans son fort intérieur, il a son petit jardin... Et ce qui vaut pour lui ne vaut pas pour les autres. Non, c'est pas comme ça que ça se passe pour les anciens. Ils sont toujours en interaction sociale et ils savent bien que ce qu'ils font engage toujours les autres. Hein. Ils ne peuvent pas s'envisager comme des individus séparés des autres qui auraient comme des monades isolées. Enfin, des monades, c'est comme des atomes, si vous voulez. Hein. Ça, c'est une expression très individualiste que vous formulez. Qui n'est pas l'horizon de pensée des anciens. Ça ne veut pas dire, attention, qu'ils sont complètement collectivisés. Non, c'est pas ça non plus. C'est que le lien social est quelque chose qui fait partie de leur propre construction. Hein? Et ils accordent une très grande importance à la visibilité de l'espace public. Hein? Un homme, c'est un citoyen. C'est pas... L'homme, nous faisons la distinction entre l'homme et le citoyen. Il y a le citoyen, il s'occupe des affaires publiques, mais il n'est pas que citoyen. Nous ne sommes pas que des citoyens. Nous avons nos propres affaires privées. Hein, nous cultivons notre jardin. Nous avons notre vie de famille. Nous avons nos intérêts privés, etc., etc. Donc, il y a une séparation privée-public, hein, qui n'est pas conçue, hein, par les Grecs. Alors, ça ne veut pas dire, attention, que tout est sous le... Hein, mais la vie publique a une grande importance. Hein. Oui.
Donc, dans le jugement de Salomon, le juge, à savoir Salomon, ne sait pas qui est la victime, qui est le criminel, donc il fait couper l'enfant en deux pour réparer celle qui aura les deux. La réparation. Ben, si, parce que celle qui est... Alors, son enfant, elle aura la moitié de l'enfant, et celle qui...
L'idée, c'est de voir... Oui, mais pourquoi cette référence ? J'arrive pas à relier la référence à notre problème. Pourquoi cette référence ?
Non, c'est le problème du jugement, le juge qui doit réparer...
Oui, mais là, c'est pas une réparation qui vient de la victime. Hein, c'est autre chose. Oui ? Mais sinon ? Alain, tu...
Oui, moi, je me posais la question entre ce que la conception que Aristote de la vengeance et notre justice moderne. En fait, on a presque... Il n'y a pas une grande différence maintenant. C'est la réflexion que je me faisais, mais
c'est vrai que la référence au droit civil me paraît très juste. Mais sauf que on conçoit le pénal comme du civil chez les Grecs, si vous voulez. C'est un petit peu ça la différence. Non, je crois que ça a des implications beaucoup plus grandes que ce qu'on imagine tout de même. Hein. Par exemple, le fait de considérer que les meurtres et sont des délits privés qui peuvent se régler d'ailleurs. À la limite, même, je pense que Aristote dit même à un moment donné. Certaines affaires n'ont pas forcément besoin de la médiation du tribunal. Elles peuvent se régler par la vengeance, indépendamment, à condition, évidemment, que ça reste dans des proportions. Hein. Oui, les citoyens ont une capacité d'initiative considérable.
Je veux dire, c'est très aristocratique, cette valeur de la vengeance. Dans l'aristocratie, hein, où voilà, vous êtes bafoué dans votre rang, hein,
oui.
Voilà, et vous avez le devoir de retrouver.
Il y a un code d'honneur.
L'équilibre social est établi. Hein. Il n'y a que le roi qui peut savoir si votre vengeance est bien.
Je dirais que les valeurs aristocratiques sont largement héritées de la conception des Grecs aussi. Hein, oui, il y a du vrai. Mais c'est vrai que les citoyens sont des égaux. Mais tous ne sont pas citoyens. Il y a tout de même... La citoyenneté n'est pas universelle. Hein, on est d'accord. C'est bien ce que dit Tocqueville, d'ailleurs. C'est que la démocratie athénienne, c'est une aristocratie. C'est-à-dire que... Oui, c'est une démocratie au sens où ceux qui sont citoyens participent activement à la vie civique, là, c'est certain. Mais beaucoup sont exclus de la citoyenneté. Hein. Il y a une fraction simplement de la population qui est citoyenne. Alors que la démocratie moderne, en théorie, en principe, elle n'exclut personne. Tous les hommes sont appelés à devenir citoyens. Oui ?
Est-ce qu'on peut dire que dans le système présent, prendre la justice, c'est quelque part prendre en considération le victime, de venger, de le punir, que le dispositif pénal est, lui, d'un côté châtiment est-ce qu'il n'y a pas un partage des rôles un peu entre. Pour de façon à traiter la victime d'un côté et le criminel de l'autre, entre le fait de rendre la justice et finalement le fait d'appliquer la peine.
Est-ce que dans notre fonctionnement, il n'y a pas une sorte d'hybridation ?
Voilà.
Oui, je pense que.
Pas la charge un peu
dans le fait. Oui. Là, je pense que c'est un vaste débat. Hein, mais non, mais c'est vrai que c'est une question qu'il faut se poser. Quelle est aujourd'hui la place de la victime ?
Voilà. Et comment est-elle traitée dans. Notamment.
Et c'est vrai que quand on parle de la victime, regardez les campagnes d'opinion. Hein, bon, vous voyez bien. Alors, c'est vrai qu'il y a un crime crapuleux. Très vite, certains médias dénoncent le laxisme des juges, etc. Enfin, c'est systématique. Hein, et sont prêts à même remettre en cause même l'institution judiciaire. Hein. Donc, c'est vrai que la référence constante à la victime, elle n'est jamais innocente non plus. Et en même temps, c'est vrai aussi que donner place à la victime, entendre la victime, comprendre qu'elle a besoin d'être réparée, qu'elle a besoin d'être respectée, d'être connue, c'est très important aujourd'hui. C'est une demande nouvelle qui revient. On peut plus se contenter d'une justice, comment on appelle ça, rétributiviste, qui, bon, ouais, tu as commis un crime, bon, tu vas payer, point, c'est tout. On peut pas. La justice s'ouvre, je dirais pas à la psychologie, mais au problème de la reconnaissance. Donc c'est. Alors ben là, on parle de notre propre modernité. Hein. Hein, on est d'accord, c'est pas.
Le symbole de la balance, quand même, on voit bien que quand on voit toute cette démonstration d'Aristote, du symbole de la justice.
Ah, bah oui. Oui. Tout à fait. Hein. J'allais dire une chose, mais je sais plus, j'ai oublié ce que j'avais à dire, mais c'est pas grave. Oui, s'il y avait une autre question, puis. Attendez. Voilà. Ce petit texte là, de la colère, c'est là que ça se lit très bien, hein, vraiment. À partir du moment. Parce que le problème, justement, ça se lit très bien, mais l'ennui, c'est que, justement, on peut penser, on peut glisser. C'est-à-dire, on se dit, ah bah oui, bon, c'est pas grave. En fait. Bon, je pense que j'essaierai peut-être de lui consacrer un peu de temps. Je vous ai dit que sur la question de la justice, il me semble qu'il y a deux, trois références qui me paraissent importantes. Il y a l'œuvre de Beccaria, très importante à mon avis, traité des délits et des peines. C'est le premier à mettre en cause la peine de mort. Mais bon, c'est intéressant. Et puis, je pense, bon, je reprends le livre de Foucault, je pense que c'est intéressant. Éthique à Nicomaque. Vous voyez ? Alors, c'est le livre 5. C'est un texte extrêmement dense. C'est assez technique, Aristote. Hein. C'est un peu ingrat, si vous voulez. Vous lisez du Sénèque, c'est plaisant, c'est agréable. Vous voyez ? Ça vous plaît. Mais bon, Aristote. Mais parce qu'en fait, il a jamais rien écrit. Ce sont ses élèves. Il fait ses cours. Vous voyez ? Voilà, donc Aristote, et puis la rhétorique, par contre, est plus facile à lire. La rhétorique est plus facile à lire.
Et là, le texte sur la colère, la vengeance, c'est dans l'éthique.
Alors, donc, la rhétorique. La rhétorique. Il y a toute la dimension passionnelle et éthique de la vengeance, de la colère, c'est dans la rhétorique. Et la question de la justice, à proprement parler, c'est l'éthique à tout moment. Et puis celui-ci, il est consacré à la colère. Et il est ouvertement critique d'Aristote. Enfin, on en parle.